France Culture.
16 janvier 2004, hôpital de Chambéry, âge un jour. Mon Théo, tu es né il y a quelques heures à peine, petit être si précieux, déjà plein de ton importance, de ton unicité. Tu n'es pas seulement mon fils, tu n'es pas seulement le petit dernier de la fratrie, tu n'es pas seulement le fruit d'une rencontre, ni même le résultat de notre désir. Non, tu es toi, seulement toi, entièrement toi. Un tout petit être affublé de notre amour, de notre bonheur, de nos espoirs sans frontières précises. Tu es, et cela me suffit. Dors, petit ange blond, dors. Tu auras bien assez du reste de ta vie pour exister. Et moi, pour te soutenir. Dors.
Autisme, les combats d'une vie. Épisode 1. Et si mon enfant était autiste ? Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Cécile Lafont.
17 janvier 2004, 16h20, âge 2 jours. La fatigue sûrement, et la solitude peut-être. Tu ne sembles pas vouloir que je te pose sur moi, comme j'avais tant aimé le faire avec tes frères et sœurs. Tu pleures depuis des heures, des pleurs que je n'arrive pas à traduire. Tu ne veux pas manger, tu ne veux pas dormir. Tu ne veux pas de mes bras, ni même de ma voix, apparemment. Cela fait 3 fois que je demande à une infirmière de regarder si tu vas bien. Peut-être as-tu mal quelque part? Peut-être a-t-on mal nettoyé ton nez, tes oreilles, tes yeux? Mais elles sont surchargées de travail et préfèrent s'occuper des mamans moins expérimentées. Je suis tellement fatiguée et tes pleurs me vrillent le ventre.
Valérie Gay-Corajou, vous êtes la maman d'un jeune garçon qui a aujourd'hui 20 ans, qui s'appelle Théo. Et l'extrait que vous venez de nous lire, en fait, il est issu d'un livre que vous avez écrit il y a 6 ans, en 2018, « Nos mondes entremêlés, l'autisme au cœur de la famille ».
Pour être plus exact, ce petit passage est issu d'abord d'un carnet que j'ai écrit à Théo, comme j'avais fait auparavant avec ses frères et sœurs. J'ai toujours eu besoin d'écrire à mes enfants avant qu'ils accèdent au langage. Et ensuite, j'ai trouvé intéressant de me servir de ce carnet pour qu'il y ait une double temporalité, c'est-à-dire la découverte, la peur, tous les sentiments sur le moment, et ensuite l'écriture plus apaisée avec la compréhension et la connaissance de l'autisme et donc une explication de ce qui nous troublait. J'ai trouvé ça intéressant.
Ray, can we try something?
Yeah.
Do you know how much 312 times 123 is?
38376.
He's right. How much is 4,343 times 1,234?
5359262.
He's a genius, right?
De l'autisme, on ne retient souvent que la part la plus spectaculaire, immortalisée au cinéma par Dustin Hoffman dans Rain Man. Des personnages réels ou imaginaires, aux compétences hors normes, capables de mémoriser l'annuaire ou le plan d'une ville en un clin d'œil, ou d'accomplir des calculs dignes d'un ordinateur. Mais derrière ces exploits qu'on qualifie de syndrome savant, se cache souvent une réalité plus douloureuse et complexe à appréhender. Ainsi, parmi les 650 000 personnes autistes que compte aujourd'hui la France, près d'un tiers souffrent de déficience intellectuelle, de troubles des apprentissages ou encore d'épilepsie, s'infligeant parfois des blessures graves. Dès lors, comment aborder un handicap aux contours encore flous et dont l'origine et la prise en charge sont sujets à controverse? Quelles épreuves les parents traversent-ils avant d'obtenir le diagnostic de leur enfant? Et enfin, à l'école, en institution spécialisée ou en entreprise, quelle place notre société est-elle prête à faire à celles et ceux qui vivent en autistan? Une exploration documentaire de la naissance à l'âge adulte, la bande-son d'une vie. Ça a été quoi les premiers signes? On a l'impression que déjà tout petit, vous vous posez des questions.
J'ai envie de dire dès le premier jour, en tous les cas dès le lendemain, ça c'est certain, j'ai senti une mise à distance, comme une volonté de garder de la distance avec moi, de refuser le contact, en tous les cas que je déborde dans sa bulle. Vous voyez, déjà très tôt, même si je ne parvenais pas à mettre les mots, bien sûr, il y avait un malaise, quelque chose, j'ai l'impression de le déranger. Vous voyez.
D'ailleurs, vous dites Théo me repoussait. Tout comme il repoussait le biberon, Ma main, le drap, il repoussait le monde.
Tout à fait, c'est le sentiment qu'on avait. Et quand on est rentré à la maison, tous les deux, après l'hôpital, les frères et sœurs, son père, tout le monde a eu ce sentiment, à moindre échelle peut-être, mais quand même, il y avait ce malaise. Et alors qu'on était une famille qui fonctionnait avec le langage, on parle de tout, il n'y a pas de tabou, il y a eu même un silence autour de ce malaise, parce qu'on avait peur d'abîmer ce qui était beau, qu'on avait besoin que ce soit beau, et qu'on l'aimait déjà tellement, et qu'on avait peur de mettre des mots et de faire exister cette chose-là. Donc on a mis du temps avant de nommer ce malaise.
Il est pas bien, là.
Il veut pas que je le bouge.
Non.
Il veut pas que je lui touche la tête.
Bouge ta tête,
Mathéo. Non, 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 non.
Quoi, non, 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 non. Monsieur, non.
Il avait presque 2 ans, juste à l'époque de Noël. Il s'est brûlé la main sur un chauffage à pétrole. Et là, il a eu une réaction tellement disproportionnée. On aurait dit un petit animal. Il s'est mis à hurler, à se mordre, à se taper. Ça a duré, on n'arrivait plus à le attraper. Des hurlements. Donc on était, nous, figés, quoi. Parce que quand bien même il avait mal, c'était vraiment un comportement qu'on ne parvenait pas non seulement à arrêter, mais à comprendre. On a fini par le prendre, ce qu'on ne faisait pas, parce qu'il n'aimait pas être pris, il n'aimait pas être porté, il n'aimait pas être touché, mais là, il n'y avait pas le choix, et lui maintenir sa main sous l'eau froide. Et il y a quelque chose qui s'est brisé en lui, comme une poupée de chiffon. Vous voyez, à un moment, c'est comme si quelqu'un l'avait débranché. Il ne nous regardait plus, ou alors il regardait à travers nous, on l'appelait, il ne répondait pas, on faisait du bruit, il ne tournait pas la tête, on a même fait des examens pour voir s'il était atteint de surdité, mais non, quoi. Et assez vite, on a vu qu'il ne voulait plus participer, ça ne l'intéressait pas.
Il s'était extrait du monde.
Extrait de notre monde, rentré dans son monde. Parce qu'il n'avait pas l'air de s'ennuyer, il avait l'air pas si malheureux que ça, il ne pleurait pas. Vous voyez, il n'avait pas l'air de souffrir, mais il n'était pas avec nous. Et on ne pouvait pas aller avec lui. Donc il y a eu une espèce de coupure du son. Vous voyez, il n'y a eu plus personne. Ça a été vraiment à la fois une gifle et à la fois une explication. Et ça a été le démarrage de « bon, on arrête de considérer que c'est un petit enfant un peu compliqué, on va s'occuper de lui ». Du coup, nous, on s'est réunis encore plus. On était très, très liés avec ses frères et sœurs. Et avec son père, à l'époque, était encore avec nous. On a fait comme une espèce d'équipe pour tenir le coup, pour essayer de comprendre, intellectualiser, pour passer au-delà de la souffrance affective. Mais c'est comme ça qu'on est devenus des observateurs. Et que plutôt que de souffrir sans comprendre, on a observé pour essayer de comprendre où il était. Et puis moi, je m'étais beaucoup renseignée sur le net, j'avais lu une définition de l'autisme, on a l'impression qu'on parlait de notre fils, donc ça...
Mais, ça disait quoi ?
Ça parlait du silence, des balancements, des bruits de gorge, du flapping, c'est-à-dire bouger ses mains comme s'il s'envolait, de faire toujours les mêmes gestes, des répétitions... Enfin, ça le décrivait, quoi. Et ce qui lui est arrivé ce jour de la brûlure, ça s'appelle un effondrement autistique. C'est-à-dire que tout est déjà là, plus ou moins, mais il tient. Et puis tout d'un coup, ça lâche parce que c'est trop, quoi.
Qu'est-ce qui va vous décider à consulter ?
On a consulté quand il a commencé à souffrir. Quand il a commencé à s'automutiler, à s'arracher les cheveux, à se taper la tête sur les radiateurs. Quand on a vu qu'en réalité, ce calme apparent n'était qu'un calme apparent. Quand on a senti que... cette solitude dans laquelle il était, il s'y perdait parfois, et que c'était juste plus possible, quoi. Et d'être tenu si loin sans pouvoir l'aider, c'était intenable, intenable. Du coup, on avait besoin d'un diagnostic pour valider une aide. Et c'était compliqué parce qu'on voyait déjà, on avait déjà perçu sur le net qu'il y avait 2 écoles bien distinctes, la psychanalyse ou le comportementalisme. Or, le comportementalisme nous effarait par sa rudesse, c'était tellement éloigné de ce qu'on voulait pour Théo, qu'on s'est tourné vers la psychanalyse, qui ne nous enchantait pas non plus. On aurait aimé du soutien, on aurait aimé que quelqu'un soit disponible pour aller dans notre direction. Mais il y avait vraiment une mainmise politique, médicale, des spécialistes, qui, d'une certaine manière, nous proposaient soit de nous laisser tranquilles, soit de nous prendre notre responsabilité de parents.
Bonsoir. Voici les personnalités scientifiques qui ont accepté de participer au débat de ce soir. Madame Maud Manoni, psychanalyste, monsieur le professeur Mises, professeur à la faculté de médecine de Paris-Bicêtre, chef du service de psychiatrie de l'enfant. Le docteur Tony Lenné, médecin-chef de psychiatrie infanto-juvénile, et monsieur le professeur Debré-Ritzen, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital des enfants malades. Si ce débat a lieu ce soir, c'est que la série d'émissions présentées par la première chaîne sur Bruno Bettelheim et son œuvre ont suscité dans le public français un très grand intérêt. On peut dire que deux grandes questions se dégagent de tout cela. D'abord, celle de la nature, de l'autisme et des psychoses infantiles en général. Sont-elles d'origine génétique, psychique ou les deux à la fois? Et à partir de là, quel rôle peuvent jouer les traitements psychothérapiques et en particulier la psychanalyse face à ces maladies?
Contrairement à beaucoup d'autres pathologies, qu'elles soient mentales ou physiques, l'autisme a déclenché des véritables guerres. Ça commence très tôt, hein. Ça commence très tôt parce que avant qu'on parle des autistes, on parlait de ce qu'on appelait les idiots.
Jacques Hochmann, psychiatre et psychanalyste, auteur d'une histoire de l'autisme.
Depuis le début du 19e siècle, on opposait en quelque sorte la maladie mentale, qui était, pour prendre une métaphore, un peu considérée comme une sorte végétale qui envahissait l'esprit, mais qui pouvait aussi se flétrir et finalement s'améliorer, guérir, à l'idiotie qui, elle, était de naissance et qui était plutôt minérale, qui ne changeait pas.
C'est là qu'intervient Léo Kanner, pédopsychiatre connu pour avoir défini le tableau clinique de l'autisme infantile précoce.
Léo Kanner est longtemps apparu comme l'inventeur de l'autisme, puisqu'il a publié donc en 1943 un article où il décrivait 11 cas d'enfants, de petits garçons, qui avaient en commun essentiellement deux grands symptômes. L'un qui était ce qu'il appelait en anglais « aloneness », c'est-à-dire une tendance à l'isolement, à se replier sur lui-même, et l'autre qu'il appelait la « sameness », ce qu'on a traduit par « immuabilité », c'est-à-dire une tendance à vouloir que tout reste exactement identique, une espèce d'intolérance au changement, à l'imprévu. Et lorsque Kanner a décrit l'autisme, il avait été très frappé par une typologie particulière des parents. Il disait que les parents étaient très froids, très lointains, que c'était souvent des intellectuels. C'est lui qui a créé l'expression horrible de mère frigidaire. Lorsque plus tard, les parents commencent à s'élever contre cette mise en cause qui est fondée sur rien, il faut bien le dire, hein, il y a un deuxième bouc émissaire qui apparaît, et c'est Bruno Bettelheim.
La semaine dernière, avec Bruno Bettelheim et les enfants de l'école orthogénique, nous vous avons présenté un autre regard sur la folie. Un regard sur une maladie qu'on peut comprendre et soigner.
Portrait de Bruno Bettelheim par Daniel Carlin, ORTF, octobre 1974.
Nous allons voir aujourd'hui un film qu'a fait Bruno Bettelheim il y a quelques années et qui raconte l'histoire de Marcia, un des enfants dont il parle dans La forteresse vide. Rappelons tout d'abord que Bettelheim est arrivé aux États-Unis comme réfugié en 1939, après un an passé dans les camps de concentration de Buchenwald et Dachau, et qu'il a pris en 1943 la direction de l'école orthogénique.
Lorsqu'il prend en charge la direction de cette école, qui reçoit des enfants qu'on pourrait qualifier d'irréguliers de toutes sortes, et parmi lesquels il y a un certain nombre d'autistes, il va s'intéresser tout particulièrement à ces autistes, un peu avec l'idée qu'ils vivent dans un monde incompréhensible. Et il va faire des prises en charge assez remarquables. D'ailleurs, chacun de ses enfants a un ou une thérapeute individuelle qui s'occupe de lui tous les jours et qui essaye de le réconcilier avec le monde.
Est-ce que vous pourriez me raconter un peu, disons, les antécédents de Marcia, l'histoire de Marcia avant qu'elle n'arrive à l'école orthogénique?
Like with all...
Comme pour tous les enfants souffrant d'autisme infantile, son histoire, sa tragédie plutôt, commence en vérité bien avant sa naissance.
Il y a en particulier un cas, celui de Marcia, où il met en cause assez vigoureusement la mère et le père, les deux parents, qui font de Bettelheim leur ennemi numéro un.
Ses deux parents avaient eu l'un et l'autre beaucoup de mal à réagir face aux difficultés normales de la vie.
Et il se développe à ce moment-là, dans la psychiatrie française, tout un mouvement pour transformer les institutions où jusque-là, on les recevait parmi un très grand nombre d'arriérés mentaux plus ou moins profonds. Et ceux qui commencent à essayer de s'intéresser à ces enfants sont généralement des psychiatres de formation psychanalytique qui transforment les institutions extrêmement ségrégatives où ces enfants étaient enfermés et qui essayent progressivement de développer, à partir des années 60, ce qu'on a appelé la psychiatrie de secteur, et avec aussi malheureusement le développement d'excès, comme toujours, c'est-à-dire que certains de ces psychanalystes, en particulier l'une qui est devenue très célèbre, qui s'appelait Maud Manoni, mettent beaucoup l'accent, comme ça a été le cas aux États-Unis, sur la pathologie maternelle.
Je crois que pour un très grand nombre de téléspectateurs, il serait nécessaire que quelqu'un, un clinicien, nous explique un petit peu ce qu'est l'autisme en clinique, ce que ça représente du point de vue statistique dans la population.
Ça ne sert strictement à rien.
Je m'excuse beaucoup, madame, pour moi ça sert énormément. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui ont un esprit expérimental. Je m'en explique beaucoup.
Et ça entraîne une réaction violente d'un certain nombre d'associations de parents qui se constituent à cette époque et qui vont plaider pour le développement de ce qui a commencé à se développer aux États-Unis, c'est-à-dire des thérapies qui visent plus à modifier le comportement de l'enfant, à le rendre vivable en quelque sorte, peut-être au détriment de ce qu'avaient développé les premiers thérapeutes d'inspiration psychanalytique qui, eux, cherchaient à comprendre ce qui se passait dans la tête de l'enfant.
Il n'y a pas de définition de l'autisme autour de laquelle tout le monde s'accorde aujourd'hui, mais il y a une définition de l'autisme autour de laquelle tout le monde pourrait s'accorder, et ça c'est nouveau.
Bernard Golz, pédopsychiatre et psychanalyste.
La définition qu'on pourrait donner, c'est de dire que l'autisme est la forme la plus grave de l'échec de l'accès à l'intersubjectivité. Alors l'intersubjectivité, c'est l'ensemble des mécanismes et des processus psychiques et corporels qui vont permettre à un enfant, progressivement, de ressentir que lui et l'autre, c'est pas pareil. Qu'entre lui et l'autre, il y a un écart dans lequel vont se déployer tous les liens préverbaux qui, progressivement, vont mener au langage si tout va bien. Voilà, donc pouvoir découvrir qu'un autre que soi existe, qu'on n'est pas tout à soi seul. Hein, parce que la vision du bébé au début, c'est un petit peu comme un magma. Et puis il va falloir que ça se différencie un petit peu. Le fond de la difficulté des enfants autistes qui n'arrivent pas à faire ce repérage ou qui ne le font que de manière très imparfaite et fragile. J'insiste là-dessus parce que c'est un thème, l'intersubjectivité, qui est un thème de travail transdisciplinaire magnifique, tel qu'on n'en a jamais eu jusqu'à maintenant. Tout le monde peut travailler là-dessus. Les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les neuroscientifiques, les cognitivistes, les neurologues, les linguistes. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça. Donc, je crois que vraiment, si on ne se saisit pas d'un tel thème pour dépasser nos conflits, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut que la guerre continue coûte que coûte.
Valérie, vous vous souvenez de ce moment où va être posé ce premier diagnostic ?
Tout à
fait. Qu'est-ce qui le pose ?
C'est le CAMPS, c'est Centre Psychomédical Infantile Précoce.
CAMSP, Centre d'Action Médico-Sociale Précoce.
Donc c'est un groupe, il y avait psychologues, orthophonistes, psychomotriciennes, qui commencent par nous dire que Théo est atteint de psychose infantile. Alors, moi, je leur dis, écoutez, on a regardé un peu, est-ce qu'il serait pas plutôt autiste ? Et là, on me dit oui, mais on évite de dire le mot autisme pour pas choquer les parents. Donc, il y a d'abord un diagnostic qui contrairement à ce qu'on attendait, nous rassure malgré tout. Parce que c'est pas nous le problème, c'est un problème qui existe. Donc on va pouvoir enfin l'accompagner. Parce que si on avait été le problème, comment on faisait pour l'aider ? Vous voyez, il fallait bouger toute la famille. Mais à partir du moment où on accepte l'idée que c'est un problème connu, qui existe, que Théo a besoin d'aide, nous, on peut devenir les aidants. On se sépare du problème, vous voyez. Et à partir de là, on peut l'aider. Et bon, finalement, ils ont diagnostiqué donc effectivement un autisme typique de Caner, donc c'est-à-dire la forme la plus sévère de l'autisme, avec une probable déficience intellectuelle. Mais sur quoi se basait-il, puisqu'il ne parlait pas vraiment ? Et peut-être de l'épilepsie, parce qu'il avait des grands moments d'absence, c'est-à-dire qu'il pouvait rester, par exemple, 3 minutes sans plus bouger, comme un figé. Mais comme toutes les structures sont blindées, il y a des listes d'attente infernales, Théo n'a pu voir l'orthophoniste qu'une fois tous les 15 jours, et la psychomotricienne une fois par mois, on a tout arrêté. Et j'ai envie de dire, on a décidé de s'en occuper nous-mêmes. Moi, je ne travaillais plus.
Oui, parce que je précise, Valérie, vous allez mettre entre parenthèses votre carrière de musicienne, oui, pour vous consacrer entièrement à Théo ?
Tout à fait. Déjà, je l'avais un peu mise. Et puis, un jour, j'ai joué du violon devant Théo, qui a pris mon violon, qui l'a balancé contre le mur. C'était un signe. Quand je ne pouvais pas douter qu'il n'aimait pas. Il était ce qu'on appelle hyperacousique à l'époque, c'est-à-dire très sensible au niveau de l'audition. En fait, il est hyperesthésique, c'est-à-dire que tous les sens sont hyper développés et peuvent l'agresser. Donc les odeurs, le goût, le toucher, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le toucher, et à l'époque, hyperacousique. Et puis, je n'avais plus l'âme pour faire de la musique. Je me suis passionnée pour le monde de Théo, vraiment. Je me suis immergée dans son monde. Au départ, pour le comprendre, puis par amour.
À partir de quel âge on peut déceler les premiers signes, docteur Ockholz ? Voilà.
Alors, moi, je ferai une grosse différence entre le diagnostic de risque et le diagnostic de maladie. Diagnostic de maladie, être sûr qu'un enfant est autiste, franchement, bon, on a fait des progrès. Aujourd'hui, avant 1 an, avant 9 mois, c'est très difficile d'être sûr de soi, parce que certains enfants ont du mal à entrer dans la relation. Et pourtant, ils vont présenter d'autres choses qu'un tableau autistique. Et là, l'avis des parents est très important. Hein. Les mères sont souvent les mieux placées pour dire, mon enfant va bien physiquement, tout va bien, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à voir son regard longtemps. Il ne me sourit pas longtemps. Il détourne un petit peu la tête. Il a des problèmes de sommeil. Il a une motricité qui est un petit peu particulière et bizarre. Vraiment, il faut pas négliger ça et dire tout va bien, on verra ça dans 2 ans, dans 3 ans. Non, là, il y a quelque chose à entendre. Donc, je dirais les 9-12 premiers mois, je n'ai qu'un seul diagnostic qui m'intéresse, avec des petits traits d'union où on peut mettre les bébés qui ont besoin de nous. Là, si on sent qu'un bébé a besoin de nous pour entrer dans la relation, il faut se jeter dans la bagarre avec les parents, se mobiliser, il ne faut pas dramatiser, mais il faut y aller franchement et voir qu'est-ce qui peut bouger.
On est à l'hôpital Robert Debré, au service de psychiatrie de l'enfant, dans l'unité 4, hôpital de jour, centre de diagnostic et d'évaluation autisme. Il s'est écoulé environ une vingtaine d'années depuis qu'a été posé le diagnostic de Théo.
Ici, vous êtes dans l'unité de dépistage précoce autisme. C'est une unité d'évaluation diagnostique qui reçoit des enfants âgés de moins de 30 mois.
Valérie Ventalon, médecin responsable du centre d'évaluation diagnostique autisme à l'hôpital Robert Debré.
On évalue 3 enfants par semaine. C'est des évaluations sur une semaine avec les parents, bien sûr. Ça permet d'accompagner de manière très précoce les enfants et leurs familles dans le diagnostic, d'éviter les errances.
Voilà, vous rentrez donc dans l'unité.
Anna Marouani, pédopsychiatre.
La famille est accueillie par l'équipe pluridisciplinaire pour poser les questions donc de l'histoire de l'enfant. Ces familles bénéficieront donc d'une évaluation sur plusieurs demi-journées où l'enfant aura une observation aussi scolaire, mais aussi une évaluation du fonctionnement intellectuel, des particularités en lien avec le trouble du neurodéveloppement, avec des professionnels, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens. Il y aura aussi un bilan de recherche des causes, un bilan éthiologique où il y a une prise de sang, une imagerie cérébrale. Et donc dans cette prise de sang, il y aura aussi un bilan donc, qui inclut un bilan de génétique. À l'issue de cette évaluation pluridisciplinaire, l'équipe se réunit et on reçoit la famille pour expliquer nos hypothèses de diagnostic et surtout faire des propositions de prise en charge secondaire, de quels soins, quelles mesures pourraient être les plus adaptées pour l'enfant. Les familles maintenant participent aux soins, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble pour essayer de mieux comprendre. Ils sont très demandeurs de ça la plupart du temps.
Quel âge avait José quand vous vous êtes dit peut-être il y a quelque chose?
Qui a commencé à remarquer ça, c'était ma femme. Et c'était après qu'elle commençait à marcher, avec les points de pied. Et à ce moment-là, il commençait déjà à apprendre à parler. Un peu après, elle a été les mots qu'elle a appris. Après, la difficulté, c'était la nourriture, qu'elle est bien, bien sélective. Et ça commençait avec ça.
Les premières inquiétudes de parents, c'est un langage qui ne s'est pas mis en place, un contact visuel qui n'est pas présent, un enfant qui ne répond plus ou qui ne répond pas à l'appel de son prénom. La régression, si elle a lieu, c'est que le langage était là, le regard, le sourire, et que autour justement de l'âge de 18 mois, il y a une perte de ses acquisitions. Et donc c'est les deux modalités d'entrée dans l'autisme, soit ça ne se met pas en place, soit ça régresse. Mais poser un diagnostic à partir de 18 mois, c'est aussi accompagner précocement les familles, l'enfant, et proposer une prise en charge précoce avec un espoir de modifier la trajectoire.
Quand vous faites quelque chose avec lui, est-ce que José peut vous regarder dans les yeux?
Oui, c'est pas facile pour lui. Si j'appelle José, il fait semblant que rien se passe. Et après, il faut que j'insiste, José, regarde-moi. Et là, il commence à me regarder, mais il ne tient pas longtemps.
Et quand il parle avec vous, est-ce qu'il vous regarde?
S'il veut quelque chose, oui.
S'il veut quelque chose, d'accord. Est-ce qu'il vous sourit, José?
Oui, lui, il sourit beaucoup.
Est-ce que quand il s'approche de quelqu'un pour obtenir que cette personne fasse quelque chose, ou pour lui parler, est-ce qu'il peut lui faire un sourire? Pas qu'à vous, à d'autres personnes.
Oui. Il est bien communicatif dans cette partie.
D'accord. Est-ce qu'il a déjà joué à des jeux imaginatifs avec quelqu'un d'autre?
Non. Non.
Il n'y a pas
Franchement,
de...
il a un peu de difficulté à jouer avec des autres enfants. Et la plupart du temps, il joue aussi avec sa sœur. Pas d'imagination. Franchement, pas.
Donc, il joue un petit peu avec sa sœur. Il n'y a pas de jeu imaginatif, c'est ça? Et avec les autres enfants, vous n'avez pas remarqué de jeu? C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
À un moment donné, je lâche prise avec cette idée de, à tout prix, ramener Théo dans une espèce de norme qui va lui permettre d'être sociabilisé. Parce qu'on a une sacrée pression, les parents. La crèche, l'école, collège et compagnie. Et le regard alentour, la famille, les voisins. On a vaguement fait une demande d'entrée en école maternelle accompagnée par une AVS, c'est-à-dire une aide de vie scolaire.
Oui, une auxiliaire de vie scolaire.
Voilà. Et on nous a accordé deux fois deux heures par semaine une personne, vous savez, qui amène les plateaux chez les personnes âgées dans les villages, quoi. Enfin bon, c'était pas du tout ce dont on avait envie. Et finalement, quand j'ai vu ça, j'étais presque heureuse parce que j'ai réalisé au moment où ça nous a été refusé, finalement, que j'avais absolument pas envie de l'envoyer à l'école. Enfin, et du coup, on l'a gardé à la maison, je m'en suis occupée, mais s'occuper de Théo, c'est être avec Théo, à l'époque. C'est-à-dire, c'est pas comme avec un autre enfant, l'emmener faire quelque chose, ou jouer avec lui, c'est juste être avec lui, d'abord pour pas qu'il se blesse, ou pour pas qu'il soit seul, ou répondre à ses besoins. Et ça m'a ouvert un monde justement différent, une autre manière de regarder les choses, une autre manière de les écouter, plus attentive au silence, parce qu'il y a différents silences, plus attentive au mouvement, parce qu'il y a plusieurs mouvements, même tout simple, des petites choses de la vie que lui regardait, parce que très souvent, les personnes autistes regardent les détails. Quand ils regardent un tableau, ils regardent le détail du tableau, jamais dans son ensemble. C'est d'ailleurs une des problématiques, hein, c'est qu'ils ont du mal à faire la synthèse de leur savoir, c'est des petites cases séparées qui ne se rejoignent pas. Et quand j'ai réalisé à vivre auprès de lui, à rester des heures dans son silence, un silence habité et non pas un silence vide comme je l'avais cru au départ, j'ai arrêté de vouloir le changer. Je ne trouvais plus aucune raison valable de le perturber et de le forcer à être ce qu'il n'était pas. Et j'avais toujours en mémoire cette main sous l'eau froide qu'il avait débranchée, quoi, en quelque sorte. Et j'ai trouvé ma place en tant que mère particulière, mère de Théo. Je me sentais forte, j'étais fière de moi d'avoir réussi à passer par-dessus mon affect pour être cette mère particulière de cet enfant particulier. J'avais beaucoup de fierté, beaucoup. Je le suis encore.
C'est là où ?
Ah ! Bonjour Laurent. Eh
ben, bienvenue. Ben, bienvenue chez nous, au pays de Gabin et ses parents. Donc, Gabin est en train de se préparer avec Marie-Lou.
C'est sa maman ?
Voilà, c'est sa maman. Il est en train de prendre sa douche. D'accord. Parce que comme Gabin n'est pas 100% autonome pour se laver, ben, il faut, de toute façon, pour beaucoup de gestes du quotidien, il faut être avec lui. Voilà.
Je vois qu'il y a un puzzle sur la table du petit-déj.
Ouais. Et oui, Gabin fait encore, il a 22 ans, mais il fait encore beaucoup de puzzles, jusqu'à 100, 150 pièces. Et des puzzles solides, des puzzles en bois. Tout simplement parce que parfois Gabin peut déchirer les puzzles et donc il faut que ce soit du costaud. Mais avec Gabin, il y a, je dirais, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, Gabin, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes où il faut racheter des télés, des écrans, des puzzles. Enfin, voilà, c'est l'autisme. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle la dysrégulation. Donc il y a des périodes pas mal, puis il y a des périodes un peu moins bien.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, Laurent Savard, de porter sur scène l'histoire de Gabin, d'en faire un livre, d'en faire un spectacle ?
Une double envie. Tout d'abord, la première raison, c'est que quand je voyais tout ce qui se passait pour Gabin, le rejet dont il était victime, quand vous avez une directrice d'école maternelle qui vous dit texto par rapport à Gabin qu'elle n'a pas commencé ce métier pour s'occuper d'enfants handicapés, c'est un peu une sorte de double peine. C'est d'abord, il a un autisme. Alors, il y a plein de degrés d'autisme, mais il s'avère que le degré d'autisme de Gabin, il est plutôt sévère, voire très, très sévère. Donc, d'un côté, il a ce handicap, et en plus, il y a la société qui va tout faire pour rendre les choses encore plus compliquées pour lui. Donc, je me suis dit, très vite, je trouvais ça dégueulasse, mais pourquoi? Pendant toute l'enfance, les cinq premières années de Gabin, on était tellement la tête sous l'eau que j'avais presque arrêté mon métier. Et là, je me suis rappelé que finalement, j'étais humoriste. Et je me suis dit, mince, ah, il faut que je fasse un spectacle autour de ça.
Intérieur, extérieur, Gabin ne s'arrête jamais. Il a enlevé toutes les touches du clavier de l'ordinateur de Marie-Lou. Elle était folle de rage. « Non mais putain, j'y crois pas, il va me rendre folle ce gosse. Elles sont où, Gabin, les touches ? Hein ? Elles sont où, les touches ?» Gabin et son rire ont changé de pièce. On les a retrouvées derrière notre tête de lit, avec les restes de l'imprimante qu'il avait désossée la semaine dernière. Manque juste le A et le G. Curieusement, il abîme moins ses jouets, mais Gabin range plus qu'il ne joue, alignant les petites voitures sans chercher à les faire rouler, replaçant son camion en bois sur la commode, au millimètre près.
Oublier les morceaux de fromage aussi, parfois, qu'on retrouvait derrière les radiateurs.
À une époque, oui, les radiateurs ont retrouvé plein de choses. C'est ça, et en même temps, il est petit à l'époque. Mais j'ai envie de dire, c'est tout le temps, ça. C'est toujours ça. Ça sera peut-être pour toujours, ça. Quoi qu'on fasse.
Oh, les touches d'ordinateur, il a arrêté. Les premières vraies questions, c'était vers les 9-10 mois de Gabin, parce que je trouvais qu'il avait le regard toujours un petit peu dans la lune. Et j'ai pensé à son papy, qui a toujours aussi ce regard un peu lunaire. Je me suis dit, bon, c'est juste un petit trait de caractère, voilà.
Laurent et Marie-Lou, parents de Gabin.
En fait, très tôt, ce qu'on a entendu chez Gabin, c'est son rire. Le fait qu'il, c'est vrai, il riait beaucoup. Hein. Alors, quand même, à un moment donné, il a débloqué quelques mots. Le premier mot qu'il a su dire, c'était « gâteau ». Et puis, on s'est rendu compte que très vite, un mot chassait l'autre. C'est-à-dire, à un moment donné, il disait « donne ». Il disait très bien « donne » ou « tiens ». Mais on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dire plus de 5-6 mots. Moi, je l'ai vu différent à même pas un an.
Parce que quand on habitait, tu te rappelles, à Montmartre, nos voisins du dessus, ils avaient aussi un jeune bébé, un peu plus jeune d'ailleurs que Gabin. Et puis, il descendait avec son fils sur les épaules. Et son fils se tenait bien sur ses épaules. Et puis, il descendait les marches presque 4 par 4 avec son fils. Son fils tombait pas dans l'escalier. Enfin, c'était magique. Je lui disais, mais comment il fait, quoi? Parce que quand nous, on se baladait avec Gabin et que je le prenais sur les épaules, mais alors Gabin me tirait les cheveux. Il était super rigide. Il se balançait en arrière. C'était quasiment impossible de le porter sur les épaules. Et là, je me disais, mais pourquoi mon voisin, lui, y arrive? Et pourquoi moi, j'y arrive pas? Et c'est longtemps après, j'ai compris pourquoi j'y arrivais pas, quoi. Ouais. Donc là, pour moi, c'était un indice où je me disais quand même, gamin, il a un peu une différence.
Est-ce que José joue à des jeux de faire semblant? Faire monter, par exemple, un personnage dans une petite voiture et faire rouler la voiture jusqu'à un endroit? Servir du thé à une poupée dans la dinette?
Il joue beaucoup avec ses petites voitures.
Est-ce qu'il a une certaine façon de jouer? Est-ce que, par exemple, il aime bien aligner les objets? Vous faites oui de la tête, donc oui.
C'est bien ça. Il aime beaucoup les choses qui sont droites. Il a même pris des crayons et il essaye de faire un trait droit dans le mur.
Que se passe-t-il si vous l'interrompez quand il est en train de jouer avec ses petites voitures?
Là, il va être très très agité, commence à s'énerver.
D'accord.
Même si j'étais par terre.
Docteur Valérie Ventalon, alors pourquoi on est passé de l'autisme au trouble du spectre autistique?
Alors, on est aussi passé de l'autisme au trouble envahissant du développement et au trouble du spectre autistique. Et c'est une définition qui remonte à 2013, je dirais, avec le souci de parler de spectre, c'est-à-dire d'inclure tout ce qui était considéré comme des sous-groupes d'autisme précédemment dans les autres classifications, les inclure toutes comme un groupe de symptômes communs. Le premier symptôme, ce sont des déficits de communication et d'interaction sociale. Et puis, il y a un deuxième groupe de symptômes qui se définit par un caractère restreint et répétitif de comportement, d'intérêt. Ont été également inclus les particularités sensorielles. Ça permet ainsi d'inclure tous les individus avec troubles du spectre autistique, qu'ils soient légers, sévères ou avec des troubles comorbides.
Est-ce qu'il a déjà utilisé votre corps ou une partie de votre corps ou votre main, par exemple, comme un outil, comme un objet, comme une extension de son propre corps, pour ouvrir une porte ou pour dévisser une bouteille ou pour faire quelque chose?
Oui.
Il le fait encore?
Oui, jusqu'à aujourd'hui.
Okay. Et dans ces moments-là, est-ce qu'il vous regarde?
Oui.
Il vous regarde?
Oui.
Est-ce qu'il vous parle?
Oui.
D'accord. Est-ce que c'est un enfant qui offre du réconfort? Par exemple, des fois on peut être blessé, malade, fatigué. Est-ce qu'il peut le ressentir?
Oui. Parce qu'en fait, là, si on dit « je suis malade », il va me donner un bisou, il va faire un câlin, il va faire quelque chose.
D'accord.
Il sent qu'est-ce qu'on ressent. Il n'est pas indifférent dans ce point.
D'accord. Est-ce que ça arrive qu'il ait des expressions faciales, on va dire inapproprié au contexte? Par exemple, il peut sourire dans une situation qui n'est pas forcément drôle ou avoir une moue de dégoût, alors qu'il n'y a rien de dégoûtant. Est-ce que vous voyez des fois un décalage entre son expression faciale et le contexte?
Oui. Un exemple, si sa sœur tombe, il va sourire. Même si ce n'est pas l'occasion de sourire, mais il va sourire.
D'accord.
Il est où ton papier vide? Le papier qui était vide. Il est où? Tu l'as mis où? Le papier vide. Ah là, tu vois. Alors, avant ces 28 mois, évidemment, on en parlait au pédiatre qui nous disait non, mais le langage souvent se débloque avec l'entrée à l'école. On avait tout de même vérifié au niveau de son audition. Donc, on avait quand même déjà entamé des démarches.
Marie-Lou, mère de Gabin.
Et ensuite, le langage qui n'apparaît pas. Gabin a 28 mois à peu près. Et je vais sur des forums, je pose des questions à des mamans bienveillantes qui me disent « Ah, peut-être que ce que tu décris pourrait faire penser à l'autisme. » Et là, hop, on est parti batterie d'examen, essayer d'aller à l'hôpital. Enfin, le vrai parcours du combattant que connaît à peu près tous les parents d'enfants autistes. Même encore maintenant, ça reste un petit peu compliqué, même si c'est plus facile, l'accès est plus facile aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui galèrent encore.
Moi, j'y croyais pas quand Marie-Lou, justement, après des recherches sur les forums, me disait « Mais Gabin, il est peut-être autiste ?» Je lui disais « Mais non, Gabin, il sourit tout le temps, il se marre tout le temps, c'est pas Redman, c'est Sunboy. » Parce que, vraiment, de l'autisme, je connaissais finalement que Redman. Je connaissais rien. Je connaissais pas la diversité du spectre.
Le personnage incarné par Dustin Hoffman, donc voilà. Aux côtés de Tom Cruise.
Oui. Ouais. Et donc, du coup, je pouvais pas croire. J'avais pas de problème par rapport au fait qu'il soit différent. Mais je ne croyais pas à cette idée que sa différence, c'était l'autisme. Ouais. Et puis, on est allé voir une grande spécialiste de l'autisme. Et elle nous avait dit, non, Gabin n'est pas autiste parce qu'il provoque. Et un autiste, une personne autiste ne provoque pas. Et donc, on commence l'école maternelle avec, finalement, en étant rassuré sans l'être. C'est-à-dire, Gabin n'est pas autiste. Et je me souviens l'avoir dit, d'ailleurs, à sa maîtresse de petite section, on cherche ce que peut avoir Gabin, mais apparemment, il n'est pas autiste. Et là, la maîtresse avait dit, ah, c'est déjà une bonne chose. Et quelques mois plus tard, on a eu notre premier diagnostic qui avait été posé à Debré. Et le premier diagnostic, c'était autiste atypique. Hein.
Est-ce que vous pouvez avoir une conversation réciproque avec lui? Quand vous lui parlez et que vous lui dites une phrase qui n'est pas une question, est-ce qu'il peut construire quelque chose pour entretenir la conversation?
Non.
Est-ce qu'il utilise les pronoms? Je, tu, il?
Non.
Valérie Guécourajou, il y a eu comme ça au tout début, des petits balbutiements comme ça de langage, avec quelques mots que prononce cet Théo, puis le langage va disparaître, et puis il va revenir.
En fait, il a commencé des petits bruits, des petits sons de gorge, des 1-1-1, c'était des raclements quand il jouait, et après ce qu'on a appelé des vocalises, 1-1-1-1-1, comme ça. Et pendant qu'il faisait ces petits bruits, il manipulait des objets dans ses mains, comme quand on fait glisser du sable dans ses mains, vous voyez, parce qu'il jouait pas à Théo. C'était juste, il touchait des choses. Et puis, un jour, on était en voiture avec son père et sa sœur. On passe dans une forêt, et là, il montre du doigt la forêt, et il dit « Ab, arbre ». Donc, c'est la première fois qu'on repère qu'il nomme quelque chose. On arrête la voiture, on pleure, on rit, on crie, on l'amène dans la forêt, arbre, et ça c'est quoi? Ab, tout content, enfin, il y a une espèce d'exultation, une espèce de frisson, quoi, vraiment, parce qu'on a conscience immédiatement que c'est quelque chose de dingue, quoi, qui vient d'arriver. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Alors on installe un grand tableau noir à la cuisine, et on décide d'être attentifs tous à ses oralisations, qu'on appelle encore comme ça, son babillage, et pour voir si on peut repérer des mots qui se répètent et qui voudraient signifier quelque chose. Et on se rend compte qu'il y en a déjà une dizaine. On a tous des noms. Moi, je m'appelle Popo. Fanny s'appelle Aya. Et puis les poissons rouges, Piyoyo. Enfin, et on se rend compte comme ça qu'il norme, en fait, les choses.
Merci à Popo.
Merci, chérie. Maman, elle va l'ouvrir. Tu donnes à maman? Voilà. C'est qui donne? C'est toi ou c'est maman?
Pour Théo.
Pour Théo, oui. Mange mon velours. Tu tiens ton yaourt avec ton autre. Voilà.
C'était une période pleine d'espoir. On avait l'impression d'être la famille la plus heureuse de la Terre, quoi. On voulait plus se quitter. Les grandes voulaient louper l'école. Vous restez avec Théo. Et ce qui est génial, c'est que Théo a accepté cette espèce d'excitation autour de lui. Il aurait pu se renfermer dans sa coquille. Mais Théo a joué le jeu, il a accepté, sous condition que nous n'employions pas son dialecte. Il était à lui, on n'avait pas le droit de l'emprunter.
Un pito.
Un pito, il y en a partout, on va nettoyer.
À la fin des vacances, Gabin nous dit deux fois « veut boire ». Marie-Lou y voit un signe super encourageant. Moi, je joue mon subtil en disant qu'il fait tout de même très chaud. Marie-Lou ne me trouve pas drôle et ajoute qu'elle a aussi entendu nettement « yaourt ». Je préfère ne rien dire.
Arrivé à l'âge de 7 ans, vous dites « Gabin ne parle toujours pas ».
Oui, on confirme.
Même plus le mot « gâteau ».
Ben non. Non. Mais par contre, il continue à les manger, hein. Pas de souci. Oui, ben là, c'est-à-dire qu'après, parce que quand tout petit parle pas, c'est un peu l'obsession. On se dit, ouais, c'est important qu'il parle. C'est-à-dire que le handicap généré par son autisme, c'est surtout via ça.
Mais le plus compliqué, c'est pas tant de ne pas parler, c'est de ne pas communiquer.
Et oui.
C'est ça qui complique et qui va forcément générer des troubles. Parce qu'il a quelque chose à dire, mais on ne comprend pas, on n'arrive pas à lui donner l'accès, on sait, voilà.
À quel âge sont apparus les premiers mots?
C'était un an.
En dehors de papa-maman?
Oui, c'est ça. Mais après, il a arrêté.
Il a arrêté combien de temps?
Presque jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'il commence à apprendre à parler mieux.
Donc, il a dit quelques mots à un an. Vous vous souvenez des mots qu'il a dit?
Papa, je veux manger ça. On va dire, on veut manger du chocolat. On veut manger
aucune des disciplines n'a le pourquoi de l'autisme.
Bernard Goltz.
Personne ne sait. Et aucune des approches thérapeutiques proposées, ni la psychanalyse, ni les autres, ne peuvent prétendre guérir l'autisme. Par contre, on peut tous travailler ensemble pour améliorer le retrait et aider l'enfant à arriver jusqu'à nous en gardant l'idée que lui et nous, c'est pas pareil, hein, je répéterai ça inlassablement. Donc pour les petits, par exemple, le rôle des psychomotriciennes est très important. Parce que pour qu'un enfant repère que l'autre est un autre, il faut qu'il puisse percevoir l'autre par plusieurs canaux sensoriels simultanément, inlassablement. Voilà, alors il n'y a pas que la psychomotricienne. Il y a des consultations d'abord de psychologie ou de pédopsychiatrie avec les parents, faire l'histoire, faire et refaire l'histoire, raconter et avec l'enfant aussi. Hein. Les mots sont très importants. Le tiers, c'est-à-dire le psychologue ou le psychothérapeute ou le psychanalyste, est une personne qui va aider l'enfant et les parents à se différencier en sa présence.
Sans culpabilisation.
Oui, sans culpabilisation. Il n'y a pas de coupable.
C'est un CD. Quand a dit coup. A.
Laurent et Marie-Lou, à quel moment il vous est apparu, finalement au cours des tests peut-être que vous avez pu faire avec Gabin, qu'il y avait une donnée génétique aussi dans son autisme?
Il avait 10 ans, en fait, hein, quand on a eu le diagnostic génétique. En fait, on avait fait partie d'un protocole de recherche au moment de son diagnostic à l'hôpital Robert Debré. On nous avait proposé, donc ok, on a accepté, prélèvement sanguin pour toute la famille, puis plus de nouvelles. Et 5 ans après, on reçoit un appel du professeur Delorme de l'hôpital Robert Debré.
Alors c'est même moi qui l'ai reçu, je m'en souviens comme hier.
Il a demandé si on était bien assis avant.
Oui, moi j'étais justement dans la chambre, donc ça tombait bien, je me suis assis sur le lit. Il dit, bon, voilà, on a trouvé pour Gabin. Alors là déjà, ouf. Et il dit, voilà, donc c'est une mutation sur le gène SHANK3. Et là, très vite, il me dit, bon, ça veut plutôt dire, voilà, autisme très sévère. Juste après son coup de fil, là, je suis un peu vraiment sonné, je fais des recherches sur Internet. Et je vois qu'il y a eu des recherches avec des souris qui étaient porteuses du gène SHANK3 et qu'elles étaient redevenues normales après l'injection d'une molécule. Des souris, donc, qui avaient la même chose que Gabin, la mutation sur SHANK3. Et là, j'en pleure. Et puis, Marie-Lou qui me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, bah, regarde, c'est dingue, les souris.
Regarde les souris.
Les souris, elles sont redevenues normales. Ça fait naître un espoir. Et puis après, très vite, dans un coin de ma tête, je me dis, oui, mais bon, Gabin, c'est pas une souris. C'est ça le problème.
Bonjour, où est-ce qu'on se trouve là?
Alors, on est dans mon laboratoire, qui est à l'Institut Pasteur, et on travaille depuis plus de 20 ans sur l'autisme.
Thomas Bourgeron, directeur du laboratoire de génétique et fonction cognitive à l'Institut Pasteur.
Donc là, vous avez une pièce avec des généticiens, des gens qui font de l'imagerie cérébrale, des gens qui travaillent sur les petites souris. Voilà, et puis ça va de la molécule à la personne.
que vous voyez le signal en bleu ici, c'est la couverture du génome. On a un chromosome qui vient du papa, un chromosome qui vient de la maman. Et donc, bah, quand il n'y a pas de défaut génétique, on va avoir un signal constant comme celui-là. Et puis là, vous voyez, le signal chute. Donc ça veut dire qu'on a perdu, chez l'individu, on a perdu toute cette région. Et si on zoome dans la région ici, on voit un gène qui s'appelle Schlang 3 et qui peut souvent être délété dans l'autisme et aussi dans un syndrome qui s'appelle le syndrome de Phelan-McDermid.
Et donc voilà, donc on a une contribution très très forte génétique, mais par contre ça va être très différent d'une personne à l'autre. Entre vous et moi, vous avez à peu près 3 millions de variations, d'accord ? Et on a 3 milliards de lettres. Et donc maintenant on a plus de 200 gènes qui sont dans des formes monogéniques comme ça, où on a une seule mutation et on a un autisme. Et donc tout le travail du laboratoire, c'est de savoir est-ce que c'est une mutation qui va faire que l'effet va être très très fort chez l'enfant, ou alors des mutations qui vont faire des petits effets.
Et du coup, on peut imaginer un éventuel traitement, ou pas, pour agir sur cette mutation ou...
Oui, tout à fait. Donc on parle vraiment d'autisme très sévère. Par exemple, il y a un des gènes là, qu'on regarde qui s'appelle Schlang 2, un autre gène qui s'appelle Schlang 3, avec déficience intellectuelle, avec régression. Donc on a vraiment besoin d'un accompagnement médical, avec pharmacologique probablement. Donc on est en train de tester par exemple le lithium, qui est utilisé pour les patients bipolaires, maniaco-dépressifs.
Ici, à l'hôpital Robert Debré, vous avez mis en place un protocole qui porte sur le lithium.
Effectivement, le lithium, c'est un médicament que nous, les psychiatres, on connaît bien, étant donné qu'on le prescrit dans le trouble bipolaire notamment.
Anna Marouani, pédopsychiatre.
Il se trouve que cet essai thérapeutique, c'est la fin d'un très 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 grand travail qui a été fait avec l'équipe du professeur Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur. Et tout a commencé avec une étude sur des cellules souches qui sont dérivées en neurones. Et ils ont fait du criblage à haut débit. Donc ils ont mis plein de médicaments sur ces neurones qui ne fonctionnaient pas bien pour voir qu'est-ce qui améliorait l'expression du gène Schlang 3. Et parmi tous les médicaments qu'ils ont essayés, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques médicaments qui semblaient augmenter l'activité de Schlang 3, et notamment le lithium. Et on s'est dit, le lithium, on connaît, nous les psychiatres, ce médicament-là. Et on a obtenu un protocole pour faire un essai clinique, et pour lequel j'ai inclus 22 patients qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui ont une anomalie qui touche le gène Schlang 3. Et parmi ces patients, il y en a la moitié qui ont eu un placebo, donc un médicament non actif, et l'autre moitié qui a eu le lithium. Et cet essai vient tout juste de terminer, donc on attend avec impatience les premiers résultats.
Alors c'est quoi l'intérêt de faire des tests génétiques, Thomas Bourgeron ?
D'abord, vraiment c'est très important pour moi, c'est que le test génétique, c'est juste un test génétique pour aider les cliniciens. C'est pas un test génétique qui va faire le diagnostic d'autisme. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Par contre, ça peut donner des informations extrêmement pertinentes pour mieux prendre en charge et accompagner la personne. Maintenant, dans l'autisme avec déficience intellectuelle, un enfant sur trois en trouve la cause de son autisme. Donc déjà, ça permet de se concentrer sur les vraies causes. Parce que dans l'autisme, on sait vraiment quasiment tout a été associé à l'autisme un jour. De la mère frigidaire au vaccin, au...
Il y a beaucoup d'idées reçues.
C'est complètement dingue. Et tout a été mis au même niveau. Hein. Voilà. Donc il y a une maman qui me disait qu'elle a pu garder ses enfants grâce aux chercheurs parce qu'on voulait lui retirer ses enfants parce qu'on supposait que c'était elle qui était la cause de l'autisme chez
elle
ses enfants.
Elle était
maltraitante. Voilà, exactement. Donc on a vraiment du mal encore à imaginer que la génétique joue un rôle dans l'autisme.
Ce qu'on a pu découvrir, là, au fil un peu des entretiens qu'on a menés avec des familles et on a rencontré des enfants, on a le sentiment que, finalement, ce diagnostic, il n'est pas figé. C'est-à-dire qu'il y a des enfants non-verbaux qui vont le rester et puis d'autres qui vont retrouver la voie du langage.
Effectivement, les trajectoires développementales, elles ne sont pas prédéfinies à la naissance. On sait qu'il y a des facteurs pronostiques qui vont être plutôt de bons ou mauvais pronostics en fonction de certains éléments, à savoir notamment la quantité précoce de troubles associés, est-ce qu'il y a la présence ou non d'un trouble du développement intellectuel, est-ce qu'il y a un trouble sévère du langage ou pas, à quel point on a aussi la possibilité de mettre en place des soins précoces, l'adhésion du système familial. Mais indépendamment de ces facteurs, on va dire, pronostiques, on sait qu'il y a plusieurs types d'évolution développementale possibles, avec bien sûr une partie des enfants qui vont avoir une grande marge de progression, quelques enfants qui vont parfois avoir des phénomènes de régression sans possibilité de rattraper, et puis des enfants qui vont avoir plutôt des éléments de type un peu plateau, on va dire, avec bien sûr des progrès, mais pas autant qu'on en aurait espéré. Puis il peut y avoir des troubles qui viennent se rajouter si en plus il y a le développement d'un trouble hyperactif déficit de l'attention, un trouble dépressif, un trouble anxieux, des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles sévères du sommeil. On sait que c'est des facteurs qui vont venir réappuyer un petit peu sur les symptômes qui existaient déjà et qui vont pouvoir comme ça majorer, aggraver certains troubles.
Théo était très refermé dans son monde et puis comme il jouait pas, on voulait quand même lui ouvrir une fenêtre sur le monde, donc on a décidé de lui acheter une télé, un magnétoscope, et on allait dans tous les vide-greniers pour prendre toutes les cassettes possibles, et il les regardait, mais debout, les mains dans le dos, sans réaction. On ne savait pas trop ce qu'il en comprenait, ni rien, quoi. Et puis un jour, on lui amène Kirikou et la sorcière.
Mère, enfante-moi.
On l'a vu se lever, parce qu'il était assis par terre, et puis refaire les petits bruits de Kirikou, et puis tourner quand Kirikou tournait, enfin complètement s'animer.
Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul.
Avec une réaction, les yeux qui pétillent, le sourire, le rire, enfin, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, pouf, tiens, Théo est de nouveau là.
Je m'appelle Kirikou.
Et il a demandé à regarder Kirikou, donc on l'a regardé avec lui, puis à le re-regarder Kirikou. Et petit à petit, il s'est mis à imiter Kirikou à l'avance, ce qui impliquait qu'il avait compris. En tous les cas, qu'il avait retenu, qu'il avait donné du sens aux mots, etc. Va chercher du lait. Attends, il est sur la table de la cuisine, Théo, il est là, le lait. Théo, là-bas, sur la table. Si, il est sur la table, va voir. C'est, vous voyez, c'est rigolo avec lui parce que c'est des étapes d'un coup. C'est pas une longue progression, c'est de temps en temps, clink. Et moi j'ai envie de dire, on l'a éteint quand on lui a mis la main sous l'eau et Kirikou l'a rallumé.
Merci à Valérie Gay-Corajou, Théo Fache, Jacques Hochmann, Bernard Golz, Laurent Savard, Marie-Lou Agathe et leur fils Gabin Agathe Savard. Merci également aux professeurs Valérie Ventalon, Élise Humeau, Anna Marouani, ainsi qu'à toute l'équipe du service psychiatrie de l'enfant de l'hôpital Robert Debré à Paris et au papa du petit José. Enfin, merci à Thomas Bourgeron de l'Institut Pasteur. Extrait de texte, « Nos mondes entremêlés » de Valérie Gay-Corajou et « Gabin sans limite » de Laurent Savard. Prise de son, Thomas Robin, Stéphane Poitevin, Alexandre James, Xavier Lévesque. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedeau et Emmanuel Laurentin. Autisme, les combats d'une vie. Épisode 1, Et si mon enfant était autiste ? Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Cécile Lafont.